Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous sommes dans le catéchisme autour des articles 385, 86, 87, etc., c'est-à-dire le paragraphe sur la chute, donc la question du péché. Nous avons déjà échangé sur cette question-là. Une question me vient, qui me semble assez importante, c'est la manière, si je puis dire, d'expliquer le péché. Je m'entends, ou je m'explique mieux, pardon. C'est quand on parle du péché à quelqu'un qui n'est pas croyant, il va chercher des fautes, et puis il va chercher des raisons qui conduisent aux fautes, des raisons extérieures à celui qui commet les fautes. Il va chercher donc quel est le système qui produit ça, si je puis dire. Mais même des catholiques, du reste, des chrétiens qui parlent du péché, notamment dans le sacrement de la réconciliation, comme moi, tu es prêtre, et nous avons ce beau ministère de pouvoir donner le pardon du Seigneur. Il y a un peu une sorte de vision des choses, et si donner plus de lois permettait de moins pécher. Il y a un petit peu cette idée-là. Je pense qu'il est important que nous parlions ici de ce qui, pour les chrétiens, est important, ce péché originel et ce passage, on va appeler ça du péché originel au péché personnel.
Oui, le croyant, celui qui a reçu le baptême, est persuadé que le baptême le délivre du péché originel, mais on garde malheureusement les effets, certains effets du péché originel, et c'est comme ça qu'il explique le péché. Celui qui ne croit pas tente toujours une explication d'un autre ordre, soit selon le mythe de la croissance infinie, qui fait que l'homme est en défaut de croissance quand il pêche, soit comme une faiblesse, une sorte de faiblesse psychologique ou une faiblesse de société, soit encore comme une erreur. Quelqu'un a mal vu où il allait, il s'est trompé de chemin et il suffit de le reprendre. Et l'idée de la loi serait, dans ce cas-là, d'en ajouter beaucoup pour permettre de mieux canaliser les gens, pour mieux les structurer. L'homme aurait comme un cœur bon naturellement et il suffirait de mieux le diriger, et donc en mettant beaucoup de lois, cela permettrait à l'homme finalement de se diriger vers le bon but, qui serait de respecter autrui, de faire le bien, d'éviter le mal, etc.
Nous sommes marqués en cela par la philosophie des Lumières.
Et c'est tout à fait la philosophie des Lumières. Le mythe d'une philosophie d'un cœur bon à l'origine est typique chez Rousseau ou chez d'autres de cette empreinte qui a frappé les esprits, et Voltaire lui-même le pensait, il suffisait de changer un peu les structures pour aboutir à quelque chose de meilleur. Alors c'est vrai que les structures jouent, et nous-mêmes, chrétiens, nous luttons contre les structures de péché, et nous nous opposons à ce que les structures de péché, d'une certaine manière, conduisent l'homme à davantage de péché. Mais nous reconnaissons d'une manière plus radicale qu'il y a un partage dans le cœur de chaque homme entre le bien et le mal. Il y a quelque chose qui s'est radicalement opposé à Dieu, et le péché originel est cette découverte que depuis Adam, nous ne formons qu'un en Adam, et que Adam a transmis par propagation, en quelque sorte, cet état où nous sommes divisés en nous-mêmes entre le bien et le mal. On ne peut pas situer, comme dans certains grands pays l'ont fait récemment, en disant il y a les pays du bien et les pays du mal, c'est archi faux. Il y a une division dans le cœur de chacun, et c'est ce cœur-là qu'il faut travailler, c'est ce cœur-là qu'il faut convertir, et nous sommes liés à nos prédécesseurs, nous appartenons au genre humain, et c'est la nature même de l'homme qui a été viciée par Adam. Donc il y a quelque chose, vous voyez, qui est de l'ordre d'une propagation, et qui n'est pas de l'ordre d'un péché actuel. Notre cœur est ainsi brisé entre le bien et le mal par propagation et non pas par un acte que nous aurions à poser nous-mêmes. Si ce n'est qu'après, nous avons à ratifier soit des actes bons, soit, hélas, des actes mauvais. Et le péché originel est donc quelque chose de tout à fait coriace dans ses conséquences, puisque nous avons la concupiscence qui nous est laissée pour la lutte, comme dit le Concile de Trente, mais cette concupiscence eh bien, nous oriente souvent à préférer l'aveuglement, le mal, plutôt que le bien. Et c'est ça la difficulté pour nous, c'est de sans cesse rechoisir le bien et la grâce qui nous aide à réaliser le bien, plutôt que de nous laisser aller à des passions désordonnées. Car le péché originel a désorganisé notre nature, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous avons non seulement perdu la sainteté que Adam et Ève avaient avant la chute, mais en outre, il y a eu une fracture dans notre nature. Notre nature n'est plus idem. Elle est marquée par une lenteur, elle est marquée par une propension à aimer ce qui nous plaît plutôt qu'à désirer ce que Dieu veut pour nous. Et c'est cela qui est très difficile pour l'homme contemporain qui croit qu'il va pouvoir tout résoudre, dans le fond, par ses propres moyens et notamment par une législation de plus en plus efficace, mais les législations s'accumulent, il y a des lois, à tel point que les avocats ne savent même plus les reconnaître, tellement il y en a, ou les juristes, et cela devient inextricable, et en fait, le malin, celui qui est dans notre cœur, arrive toujours à se glisser entre les lois et à trouver la faillibilité.
Le numéro, je rebondis sur ce que tu dis, le numéro 389 dit quelque chose d'important.
Oui.
On ne comprend le péché originel que parce qu'on a compris que le Christ était venu pour nous sauver, avait besoin de nous sauver de ce péché originel. L'article dit « La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. » J'aime bien ce revers de la bonne nouvelle. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Parce que nous découvrons que nous sommes sauvés en Christ, que Dieu veut nous sauver tous en son Fils Jésus-Christ, alors nous comprenons que nous sommes tous marqués par cette raison, le péché originel comme raison d'être sauvé. Même si le salut ne réside pas que dans la rémission de ce péché, puisque c'est quand même un désir de Dieu de nous ramener en communion avec lui, de toute façon, indépendamment du péché, de nous rapprocher de lui.
Alors, c'est sûr que on peut toujours envisager que s'il n'y avait pas eu la chute, eh bien, peut-être que nous aurions été aussi aspirés à une communion, mais que cette communion ne serait pas aussi belle que celle que maintenant Dieu nous propose. C'est ce que dit le numéro 412. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher? Et Saint Léon répond, « La grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. » Et saint Thomas d'Aquin ajoute « Rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un plus grand. Bien, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit saint Paul. » Et nous le chantons dans l'Exultet, le soir de Pâques, la nuit de Pâques. « Ô heureuse faute qui nous a mérité un tel et si grand rédempteur. » C'est une admirable expression, et bien sûr, il ne faut pas croire que l'Exultète mettrait en valeur la faute en elle-même. Mmh. Quand elle dit la faute, il faut bien comprendre que c'est Adam. Heureux Adam qui a fauté, qui a mérité un tel et si grand rédempteur, c'est le Christ. C'est-à-dire le Christ nous a porté plus loin dans le bien en s'incarnant et en venant nous attirer vers une communion encore plus parfaite que celle que nous aurions eue si nous n'avions pas péché. Nous aurions une communion avec Dieu, mais peut-être aurait-elle été beaucoup plus limitée que cette vision face à face que Jésus nous révèle à travers sa prédication, son évangile. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est cette certitude que nous avons, donc, que Jésus nous veut non seulement du bien, mais un bien proportionné à notre état. Et là où la faute a surabondé, la grâce va surabonder, il y a comme une sorte, là aussi, de compensation, comme ce péché originel qui est présenté comme un revers de la bonne nouvelle. Eh bien, il y a une compensation divine par rapport à l'état dans lequel nous sommes. Je trouve ça très positif et très rassurant comme doctrine. C'est une doctrine qui nous donne de la joie de vivre, finalement, en sachant que Dieu nous réserve toujours le meilleur. Dieu veut pour nous ce bien, et ce bien ne pourra être que de plus en plus grand à mesure que nous nous y destinons et que nous acceptons, finalement, de nous laisser prendre par la main pour aller vers cette vision.
En effet, il m'est arrivé parfois d'entendre ou de participer à des baptêmes où le péché originel en était gommé. Alors, ça remonte à des années, hein.
Oui,
tu as peut-être connu ce genre de choses-là aussi.
Bien sûr. Il y a eu une mode à un moment de cacher le péché originel comme si ça faisait peur, ou comme si c'était une pensée d'un concile ancien, le concile de Trente, et que, dans le fond, avec le concile Vatican II, on pourrait oublier ces conciles. Mais c'est une absurdité quand on lit la lettre du concile Vatican II.
Oui, et donc du coup, je préfère que pour notre entretien d'aujourd'hui, en rester sur cette jolie phrase que tu as dit, c'est une doctrine qui nous donne de la joie de vivre, celle du péché originel.
Voilà.
Elle nous montre la grâce de salut en Jésus-Christ qui est immense.
Exactement.